Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
On parle et on va parler beaucoup cette semaine dans cette série de ce message de la divine volonté. Et avec vous, Père Jean-Jacques Dutin. Bonjour Père.
Bonjour Nathalie.
Merci d'avoir fait le déplacement depuis la ville de Bordeaux
avec
pour
plaisir.
Venir dans nos studios et nous délivrer un peu cette vie de la servante de Dieu, Louisa Picaretta. Alors vous-même, sur tout ce qui était auparavant révélation un petit peu surnaturelle et privée, vous étiez très très méfiant. Comme moi-même et peut-être beaucoup de nos auditeurs. Et pour information, il y a un procès qui se prépare en vue d'une béatification future de Louisa. Vous avez vous-même rencontré le prêtre qui s'occupe de la cause de béatification, c'est ça ?
Oui.
On en est où aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, donc, les écrits de Louisa ont été, et dès le début, les premiers écrits, Louisa avait obtenu ce qu'on appelait le nil obstat, c'est-à-dire que rien n'est opposé ou contraire à la doctrine de l'Église. Et le premier, c'est Annibal Maria de Francia, ce prêtre canonisé par Jean-Paul II en l'an 2000. En 94, donc je passe en 94, Benoît XVI reçoit les écrits, ouvre en tout cas et permet l'accès aux 19 premiers tomes des écrits de Louisa. Il y en a 36 et il donne son autorisation pour cette lecture et ce suivi en même temps qu'est ouvert un procès de béatification de la servante de Dieu.
Alors, et ce procès avance, Père Jean-Jacques ?
Ce procès, alors, on est allé justement en pèlerinage à Corato, rencontrer d'abord les lieux, et évidemment parce que c'est tout autre chose quand on peut découvrir le lieu, d'ailleurs ce fameux lieu dont j'ai parlé,
oui.
Où elle se trouve au balcon, et elle a cette vision de Jésus qui est devant laquelle, je dirais que le point de départ de sa mission, quand Jésus lui dit, elle voit Jésus portant sa croix, qui se tourne vers elle, qui la regarde et qui lui dit « Âme, aide-moi ». Et donc, à partir de là, effectivement, c'est une nouvelle mission, un envoi. Et j'ai rencontré le prêtre actuellement, un jeune prêtre, donc c'est toute une équipe, entre autres, mais il y a un jeune prêtre qui s'occupe personnellement et qui suit ce procès, cette préparation en vue de ce procès de canonisation. C'est lui qui est chargé, en tout cas, par l'évêque. Hein, l'évêque qui avait directement participé est décédé et donc le nouvel évêque reprend automatiquement à Corato la suite du procès avec directement le curé de ce village de Corato qui avec le recueil d'un certain nombre de témoignages et de personnes qui ont été proches de Louisa pour avancer.
Alors Louisa qui commence et débute un peu cette vie, est-ce qu'on peut parler d'une vie surnaturelle, une vie dite mystique quand elle est sur ce balcon et que Jésus finalement se dévoile à la petite Louisa et lui dit « Âme, aide-moi ».
Oui, une expérience mystique avec toute la réalité d'abord le bon sens de la manière dont elle le dit et l'exprime dans tous ses volumes. Ça, c'est, je crois, très accessible puisque Louisa avait une éducation religieuse, mais une connaissance, une capacité scolaire très très réduite. Hein. D'ailleurs, ses premiers écrits seront pleins de tous ses écrits seront pleins de fautes, d'erreurs de syntaxe, etc. Elle va être corrigée, mais jamais sur le fond. Le fond a toujours été clair. C'est ça qui est étonnant.
Elle a dit oui tout de suite. Hein. Elle a obéi tout de suite, la petite Louisa, servante de Dieu, pour l'écriture. Je parle de l'écriture puisqu'il y a 40 ans finalement d'écrit, de suivi et 36 tomes.
Exactement. Elle dit oui tout de suite par obéissance. C'est-à-dire que Louisa laisse ce témoignage d'une obéissance et d'une confiance totale aux prêtres qui lui seront envoyés. Elle en souffrira.
Qui lui seront envoyés, c'est-à-dire que ce n'est pas Louisa qui choisit
ce n'est pas Louisa qui choisit. Les prêtres vont se succéder, elle va en avoir beaucoup. Le premier, encore une fois, c'est ce saint prêtre, un des premiers, c'est lui qui demande à Louisa, dans l'obéissance, d'écrire tout ce qu'elle reçoit et qui va ou permettre la publication du premier ouvrage, Les 24 heures de la Passion, qui est fondamental, que l'on retrouve aujourd'hui dans plusieurs langues, et qui est une méditation de la Passion. Et ensuite, elle va avoir une succession de prêtres qui seront ses directeurs choisis, ses directeurs spirituels, et certains pour lesquels ce sera beaucoup plus compliqué.
Louisa va mener aussi une bataille avec le démon.
Elle va mener une bataille avec le démon. On trouve toute cette comment dire le déroulement et les rencontres, les attaques, la manière dont elle va vivre ça et ses souffrances dans le tome 1. C'est très très clair, qui est presque un petit peu autobiographique. Et dans ce premier tome, on voit à quel point elle est malmenée par à la fois des visions, des tentations, des doutes, elle est malade, etc., la menace des autres. Enfin, les épreuves sont diverses.
Alors, de santé fragile, Louisa passait parfois ses étés dans une ferme familiale à quelques kilomètres de Corato. C'est là qu'elle souffrit apparemment l'assaut final des démons à l'âge de 16 ans. L'attaque apparemment fut si violente, vous allez nous confirmer, père Jean-Jacques, qu'elle en perdit connaissance. C'est alors qu'elle eut une vision de Jésus qui lui faisait part du soulagement et du réconfort qu'elle pouvait lui procurer face à ses souffrances. Expliquez-nous.
Oui, mais elle va avoir ces attaques de vision qu'elle aura, de paroles données, entendues, blasphématoires, de démons. Et à cet âge-là, elle en sera très perturbée. Elle aura, ce qui va la sauver, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa soumission à l'Église et le fait d'en parler. Et en même temps, très rapidement, elle va être privilégiée de visions et de paroles du Seigneur qui vont la rassurer par rapport à ses menaces et à ses attaques. Jésus lui dira, entre autres, que par son courage, les démons ne pourront plus la menacer de cette manière-là. Par son courage, par sa confiance, par sa foi, par son abandon.
Alors, Louisa Picaretta nous fait penser à un autre visage, une autre figure, permettez-moi, Père Jean-Jacques Lutin, plus proche en France. Je pense à Marthe Robin, la vénérable Marthe Robin, qui fut donc alitée pendant 50 ans, sans nourriture et stigmatisée. Vous ne l'avez pas encore nommée, mais la petite servante de Dieu, Louisa Picaretta, a reçu aussi des stigmates.
Alors, des stigmates invisibles. Elle souffrira des mains, du cœur aussi, de cette dans son offrande, dans son agonie, et dans tout ce qu'elle va transmettre et donner et dire. Elle va vivre effectivement comme certaines de ses sœurs plus anciennes mystiques les souffrances de la Passion de notre Seigneur.
Alors des souffrances invisibles. Qu'elle avait demandé.
Ça ne se verra pas. Je crois que ça ne se verra pas. Et de mémoire, il me semble qu'elle va, elle se retrouve ensanglantée à un moment donné, complètement couverte de sang, rouée de coups. Oui, elle va vivre. Et ça ne se verra pas. C'est ça qui est étonnant. Et donc, elle décrit ces moments où elle se réveille. Et donc, suite à une lutte malmenée par les démons, coups de bâton, de contusion, etc. disloquée dans la souffrance et elle est là dans son lit en attendant la bénédiction du prêtre qui vient la réveiller puisque Louisa était obéissante et que chaque fois, chaque jour, et des fois elle restait 2-3 jours pétrifiée comme ça dans son corps, hein, puisqu'elle partait, elle était visitée, et c'est là que généralement le Seigneur lui parlait, qu'elle pouvait voir ses visions. Et par obéissance, le prêtre l'a ramenée.
Alors, vous revenez souvent, quand vous évoquez cette servante de Dieu, sur cette obéissance. C'est ce qui fait un peu cette future sainte, peut-être, de l'Église, cette obéissance et cette humilité, au fond.
Oui, et puis moi, ça m'a, je dirais à nous, c'est une garantie. C'est-à-dire qu'à partir de là, effectivement, on a eu, et je crois que c'est ce qui fait que Benoît XVI a donné accès à ses livres et à ces révélations, à ce message, et justement parce qu'il a toujours été sous cette couverture sûre de l'obéissance à ses supérieurs, aux prêtres, et à leurs paroles aussi. Certains qui doutaient, certains qui n'y croyaient pas, mais qui étaient là et qui la bénissaient de nouveau, qui venaient, qui passaient.
Alors vous nous direz un peu plus, et je vous donne rendez-vous demain, Père Jean-Jacques Dutaine, et vous nous direz ce qu'une petite servante comme Luisa Pecaretta peut délivrer comme message au fond en 2019 pour notre époque et notre temps. À demain, à la même heure.
À demain, Nathalie, merci.